Odiar Kipling, Amour des femmes. L'horreur, la confusion, le meurtrier isolé de ses camarades, tout cela était fini avant mon arrivée. Il ne restait dans la cour du quartier que du sang d'hommes par terre qui criait du sol. Le chaud soleil l'avait réduite à une pellicule noirâtre, pas plus épaisse qu'une feuille d'or battue, qui se craquerait en losange sous la chaleur, et comme le vent se levait, chaque losange, se soulevant un peu, frisait au bord comme une langue muette. Puis une rafale plus forte balaya tout en grains de poussière sombre. Il faisait trop chaud pour rester au soleil avant l'heure du déjeuner. Les hommes étaient dans les casernes en train de causer de l'affaire. Dans le quartier des ménages, un groupe de femmes de soldats stationnait à l'une des entrées, tandis qu'à l'intérieur, une voix de folie s'étranglait en vilains mots orduriers. Un sergent tranquille, de conduite irréprochable, venait d'abattre d'un coup de feu en plein jour, juste après l'exercice du matin, un de ses propres caporaux, puis était rentré dans sa chambre et s'était assis sur un lit en attendant que la garde vînt le chercher. Il s'ensuivait qu'on le traduirait en temps voulu devant le conseil de guerre pour le procès. En outre, mais c'est là le plus qu'on eût pu lui demander de prévoir dans son plan de vengeance, il allait affreusement bouleverser mon travail. Car le compte-rendu de la cause devait m'échoir sans recours. Ce qu'il serait, ce procès, je le savais d'avance jusqu'à sa lassitude. Il y aurait le fusil, qu'on aurait pris soin de ne pas nettoyer, souillé de taches au canon et à la culasse, sur lequel viendrait prêter serment une demi-douzaine de témoins militaires et superflus. Et il y aurait la chaleur, la buée étouffante, qui font glisser et chavirer le crayon humide entre les doigts, et le punka ferait son bruit monotone, et les plaideurs jacasseraient sous les vérandas, et le capitaine de l'accusé apporterait des certificats de moralité à l'actif du prisonnier, tandis que le jury soufflerait que les effets de toile des témoins jetteraient une odeur de teinture et de potasse. Puis, quelque abject malheur de chambré perdrait la tête au cours de l'interrogatoire, et le jeune avocat qui plaide toujours les causes militaires en vue du crédit qu'elle ne lui apporte jamais, dirait, ferait des choses étonnantes, après quoi il s'en prendrait à moi de n'avoir pas transcrit ses paroles avec exactitude. Enfin, quand ne le perdrait certainement pas, je retrouverai peut-être l'accusé en train de quadriller des bords de Rouen blanc dans sa prison centrale, et lui relèverait le moral avec l'espoir d'une place de chiourme aux Andamans. Le code pénal indien et ses interprètes ne traitent pas le meurtre en plaisanterie, à quelque provocation qu'ait obéi le meurtrier. Le sergent Rains, à nous de mon avis, aurait beaucoup de chance s'il s'en tirait avec 7 ans. Il avait passé la nuit entière à cuver l'injure et tuer son homme à 20 mètres, avant aucun échange de paroles possible. J'en savais assez là-dessus. À moins donc qu'on ne fît un brin de toilette à la cause, 7 ans serait le maximum. Et à mon idée, se trouverait excessivement à propos pour le sergent Heinz de s'être fait aimer dans sa compagnie. Ce même soir, où il n'y a pas de jour plus long que le jour d'un meurtre, je rencontrai Arthéris avec les chiens, et il entra de suite avec un air de défi dans le vif du sujet. « Je serai témoin, » dit-il. « J'étais sous la véranda quand Mackie est arrivé. Il venait de chez Mrs. Reynolds Quigley, Parson et Trott. Ils étaient, eux, dans l'autre véranda. Ils n'ont rien pu entendre. Le sergent Rice me parlait sous la véranda. Et voilà Mackie qui s'amène dans la cour et qui dit « Eh bien, Julien, qui dit « Il tient encore votre casse, sergent ?» En entendant ça, voilà Rens qui reprend sa respiration et qui dit « Nom de Dieu, peux-je offrir ça ?» Qui dit « Il attrape mon fusil et tue Maquis. » Compris ?»« Nettoyage, » dit Antheris en me fixant du regard de plomb opaque et intraitable dont il accompagnait ses mensonges de choix. Oh, il aurait tout aussi bien pu dire qu'il dansait tout nu, car en aucun temps son fusil n'avait réclamé curette ou chiffon 20 minutes après l'exercice. Le conseil, toutefois, ignorait sa routine. « Et vous allez vous tenir à cela sur le livre ?» demandai-je. « Oui, comme une sacrée sangsue. » « Très bien, je n'ai pas besoin d'en savoir plus long. Rappelez-vous seulement que Quigley, Parson et Trott n'ont pas pu se trouver, où vous dites, sans entendre quelque chose, et que pour sûr, il devait y avoir à ce moment dans la cour quelques balayeurs du quartier à se promener par là. Il y en a toujours. Ce n'était pas le bailleur, c'était le biesti, il est sûr. » Ainsi, j'acquis l'assurance d'ingénieux tripotage en perspective et je plaignis l'avocat du gouvernement qui dirigerait la poursuite. À l'ouverture du procès, je le plaignis davantage, toujours prompt qu'il était à perdre son sang-froid et à traiter en affaire personnelle chaque cause perdue. Le jeune avocat de Rennes avait pour une fois mis de côté sa passion inassouvie et wingesque pour les alibis et la folie, abjurer la gymnastique et les feux d'artifice, et travailler sérieusement pour son client. Dieu merci, la saison chaude n'était qu'à son début, il n'y avait pas eu encore de ces flagrantes fusillades dans les casernes. En outre, le jury était passable, même pour un jury de l'Inde, où 9 membres au moins sur 12 ont l'habitude de peser les témoignages. Antheris tint bon sans se laisser ébranler par le contre-interrogatoire. Le seul point faible de son histoire, la présence du fusil sous la véranda extérieure, passa sans peine au crible de la sagesse civile, bien que, parmi les témoins, quelques-uns ne puissent s'empêcher de sourire. L'avocat du gouvernement réclama la potence en soutenant jusqu'au bout la question de meurtre prémédité. Un laps suffisant avait permis, soutenait-il, les réflexions qui se présentent si naturellement à un homme dont l'honneur est perdu. Il y avait aussi la loi, toujours prête en son désir de réparer les torts dont le soldat a pu souffrir, si tant est que des torts aient existé jamais. Mais il doutait grandement qu'il y eût des torts en suffisance. Des soupçons sans cause, couvés depuis trop longtemps, avaient mené, suivant sa théorie, au crime délibéré. Mais ces tentatives pour atténuer le motif avortèrent. Le témoin le plus étranger à l'affaire connaissait, enfin avait connu, depuis des semaines, les griefs de l'inculpé. Et celui-ci, qui naturellement avait été le dernier de tous à savoir, gémissait sur son banc à entendre ces choses. La vraie question autour de laquelle tournait le procès était de savoir si Rennes avait ou non tiré, sous l'impulsion aveugle et soudaine d'une provocation, essuyé le matin même. Or, au résumé des témoignages, il parut clair que celui d'Antheris avait porté juste. Il avait imaginé, par un raffinement d'art, de suggérer que, personnellement, il détestait le sergent, lequel était venu sous la véranda lui administrer une semonce pour insubordination. Dans un moment de faiblesse, l'avocat du gouvernement posa une question de trop. « Faites excuse, monsieur, » répliqua Antheris. « Il m'appelait sacré petit avoué de malheur. » La cour pouffa. Le jury rapporta un verdict de culpabilité, mais avec toutes les circonstances atténuantes du ciel et de la terre, et le président porta sa main à son front avant de rendre sa sentence, et dans la gorge de l'accusé, on voyait descendre et monter sa pomme d'Adam, comme le mercure pompe avant un cyclone. En considération de tous les considérants, depuis le certificat de bonne conduite délivré par son capitaine jusqu'à la perte assurée de sa pension, son grade et son honneur, l'accusé était condamné à 2 ans à faire dans l'Inde et on était prié de s'abstenir de manifester devant la cour. L'avocat du gouvernement fronça les sourcils et ramassa ses papiers. La garde fit demi-tour avec un cliquetis d'armes et l'accusé, abandonné aux bras séculiers, fut ramené à la prison dans une tissa garnie démolie. Sa garde et quelques 10 ou 12 témoins militaires d'importance moindre reçurent l'ordre d'attendre jusqu'à ce qu'on appelle officiellement la fraîcheur du soir pour retourner à leur cantonnement. Ils s'assemblèrent dans une des vérandas en briques du rouge sombre d'un violon hors d'usage et félicitèrent Oferis qui portait avec modestie les honneurs de la journée. J'envoyai mes notes à la rédaction et les rejoignis. Oferis regardait l'avocat du gouvernement s'éloigner en voiture pour aller déjeuner. « En voilà un sale petit boucher avec son caillou chauve, dit-il. Il ne revient pas. Il a un collet, n'empêche qu'il ferait l'affaire. Oh, je remonte à Murray dans une semaine. Ce cabot-là me rapportera 15 couroupies, n'importe où. Oh, tu feras bien de te faire dire des messes avec, dit Terence en débouclant son ceinturon. Il avait fait partie de la garde du prévenu, au garde à vous et casque en tête depuis 3 longues heures. « Pas moi, » dit Offris avec bonne humeur. « Dieu les portera un de ces jours à la masse de la deuxième pour détérioration de locaux. T'as l'air vanné, Terence. Ma foi, on est plus jeune comme on était. Ce montage de garde, ça vous use la plante des pieds. Et ici, » il renifla avec mépris les briques de la véranda, « on est aussi mal assis que debout. Mais attendez une minute, je vais chercher les coussins de ma charrette, dis-je. Molle le sofa. On se la coule, dit Arthuris, comme Terence s'affalait en 3 temps sur les coussins de cuir en disant avec grâce. Que le bon Dieu vous refuse jamais un bon coin où vous alliez, ni l'avantage de le partager avec un ami. Un autre pour vous? Voilà qui est bien. Je peux m'asseoir en long là-dessus, Stanley. Passe-moi une pipe. Oh, gars. Et voilà encore un homme fichu à cause d'une femme. Oh, j'ai bien dû être de garde à 40 ou 50 conseils l'un dans l'autre. Et ça me dégoûte davantage chaque fois. Voyons, vous avez été de garde pour Lawson, Lancet, Dugard et Stubbing, autant que je me rappelle, dis-je. Oui, et avant, et encore avant, pour des 12aines d'autres, répondit-il avec un sourire blasé. Tout de même, il vaut encore mieux mourir que vivre pour elle. Quand il sortira de là, il change de tenue en ce moment à la prison, il pensera de même. Il aurait dû se tuer, et la femme avec, comme de juste. Il n'y a que les bons comptes qui... Mais voilà qu'il a laissé la femme. Elle prenait le thé avec Dina encore dimanche passé. Et qui s'est laissé aussi. C'est Maquis le Vénard. Mais il est probable qu'il a chaud là où il est, risquai-je. Car je savais quelque chose des exploits du dévin caporal. Pour sûr, dit Terence en crachant par-dessus le bord de la véranda. Mais ce qu'il écope là-bas avec petit fourbi de campagne auprès de ce qu'il aurait eu ici, s'il avait vécu. Bon, non, sûrement non, il aurait continué, oublié, comme les autres. Connaissez-vous bien Maquis, monsieur? Dit Terence. Ben, il était de la garde d'honneur à Patiala l'hiver dernier. J'ai passé une journée à la chasse avec lui en état et j'ai trouvé que c'était plutôt un garçon amusant. Ben, le voilà bouclé pour les amusements. Sauf ce qui est de se tourner du côté droit sur le gauche d'ici à quelques années. Je connaissais Maquis et j'en ai vu trop d'autres pour me tromper sur un homme. Il aurait pu continuer à oublier, comme vous dites, monsieur, mais c'était un homme qui avait de l'éducation et il s'en servait pour ses coups. Et cette éducation, le beau langage et tout ça, qui lui donnait moyen de faire ce qu'il voulait d'une femme, tout ça, en fin de compte, ça serait tourné contre lui pour le déchirer tout vif. Je ne peux pas dire ce que je voudrais parce que je ne sais pas comment, mais Maquis, c'était vivant et crachait le portrait d'un homme à qui j'ai vu tirer les mêmes étapes à la dernière près et qui n'est pas fini comme Maquis. Ça fut tant pis pour lui. Ah, attendez un peu que je me rappelle maintenant. Oui, c'était quand j'étais dans le Black Tyrone, on nous expédia de Portsmouth. Et que les tenons sont faillis, non. Ah oui, c'était Larry Tiny. Et du même détachement, raconta que c'était un gentleman rancœur, sur quoi Larry l'empoigna et le tua aux trois quarts pour lui apprendre. Et c'était un grand gars, un fort gars, un beau gars, et tout ça pèse son poids avec quelques femmes, mais aller prendre en masse, pas avec toutes. Pourtant, c'était à toutes que Larry s'en prenait, à toutes. Car il pouvait mettre le grappin sur n'importe quelle femme, entre celles qui foulent la terre verte de Dieu, et il le savait. Comme Maquis est en train de rôtir maintenant, il le savait. Et jamais il ne mettait le grappin sur aucune femme, sauf et sinon pour la honte noire. Ce n'est pas moi qui devrais parler, Dieu sait. Dieu sait, n'importe dans mes alliances, n'y a jamais eu que pure diablerie, et c'est justement fâché que j'étais quand il s'en est suivi du mal. C'est pourquoi, bien des fois, avec une fille et avec une femme aussi, quand j'ai vu dans ses yeux qu'il y avait plus de gravure en train que mes paroles auraient voulu faire, j'ai enrayé, tout planté là, pour l'amour de la mère qui m'a porté. Mais Larry, je pense, avait bu le lait d'une diablesse, car il n'en laissa jamais aller une du jour où, pour son malheur, elle l'avait écouté. C'était son affaire dans la vie, comme de monter la garde pour d'autres. Mais bon soldat avec ça. Il y a eu la gouvernante du colonel, et lui, simple troupier. Jamais on n'avait dit un mot sur elle, au quartier. Et une des bonnes du major, qui était promise à un homme, et quelques-unes encore en ville. Quant à ce qui se passait chez nous autres, nous ne le saurons jamais jusqu'au jugement dernier. C'était son goût à la rosse de mettre le grappin sur les meilleurs dans le tas. Pas les plus jolies, tant s'en faut, mais ces sortes de femmes dont on jurerait la main sur le livre qui n'auraient jamais venu en tête une idée seulement de faire des bêtises. Et c'est la raison, remarquez bien, pourquoi il ne fut jamais pincé. Il faillit une ou deux fois, mais ça n'alla jamais jusqu'au bout, et lui en coûta plus cher à la fin qu'au commencement. Il causait avec moi plus souvent qu'avec les autres, parce que, disait-il, n'était l'accident de mon éducation, j'aurais été la même espèce de diable que lui. C'est-il probable, qu'il disait avec sa manière de porter haut la tête, c'est-il probable que je me fasse jamais prendre? Qu'est-ce que je suis à la fin du compte? Un damné troupier, qui disait. Et c'est-il probable, penses-tu, que les gens de ma connaissance voudraient avoir rien à faire avec un simple soldat comme moi? avec le numéro 10407 qu'il disait en ricanant. Oh, je voyais bien sa façon de dire les choses quand il faisait pas exprès de parler troupier, que c'était un monsieur. J'y comprends rien du tout que je dis, mais je sais que c'est le diable en personne que tu as dans les yeux. Je marche pas pour ces affaires-là. Un bonne blague, histoire de rire, hein, où ça ne peut faire de mal à personne, c'est bel et bien, Larry, mais me trompe fort si c'est l'histoire de rire pour toi que je dis. Oh, tu te trompes très fort, qu'il dit, et je te conseille de pas juger les gens qui valent mieux que toi. Mieux que moi, que je dis. Dieu t'aide, Larry, et en tout ça, ni mieux ni meilleur. C'est tout mauvais, tu t'en apercevras pour ton compte. Tu n'es pas comme moi, qui disait en secouant la tête. Mais les saints soient loués, que je dis. Ce que j'ai fait, j'en ai eu de la peine, je le jure bien. Quand le moment viendra pour toi, tu te rappelleras ce que j'ai dit. Quand ce moment arrivera, je viendrai te trouver pour les consolations de l'âme. Révérend Père Terence. Et là-dessus, il s'en allait à quelque autre manigance de tas du diable, histoire d'accroître son expérience, comme il disait. Il était mauvais, mais mauvais jusqu'au moelle, mauvais comme tout l'enfer. La nature ne m'a pas bâti pour avoir peur d'aucun homme, mais par Dieu, j'avais peur de Larry. Il arrivait à la chambre, le bonnet sur trois cheveux, se couchait sur son cadre et regardait le plafond. Et de temps à autre, il faisait un petit rire comme un caillou qu'on jette au fond d'un puits. Et à cela, je connaissais qu'il méditait un nouveau coup et j'avais peur. Bon, tout cela se passait il y a longtemps, longtemps, mais ça me fit marcher tout droit, pour un temps au moins. Je vous ai dit, n'est-ce pas, monsieur, que je fus amené par persuasion et caresse à quitter le Tyrone à cause d'un ennui. Oui, quelque chose concernant un ceinturon, je croyais, la tête d'un homme, n'est-ce pas? Terence n'avait jamais raconté toute l'histoire. Oui, ben c'est ça même. Ma parole, chaque fois que je suis de garde au conseil de guerre pour un autre, je me demande pourquoi je n'ai pas été un jour à sa place. Mais mon homme à moi joua partie franche et eut le bon sens de ne pas mourir. Pensez à tout ce que l'armée aurait perdu s'il s'était laissé glisser. On me supplia de permuter et mon capitaine fit une démarche auprès de moi. Je partis pour ne pas le désobliger. Et Larry me dit qu'il regrettait rudement de me perdre. Ce que j'avais fait pourtant pour lui donner des regrets, n'en doute guère. Et c'est ainsi que j'entrai au vieux régiment, en laissant Larry s'en aller au diable de son côté, et m'attendant plus à le revoir, sauf à quelques conseils pour coups de fusil en caserne. Mais qui est-ce là-bas qui sort du compound? L'œil profond, pont dont Terence avait aperçu un uniforme blanc qui se défilait derrière la haie. Le sergent est parti en ronde, dit une voix. Alors, c'est moi qui commande ici, et j'entends pas qu'on fiche le camp au bazar pour être obligé d'aller vous chercher avec une patrouille à minuit. Nelson, je sais que c'est toi, reviens sous la véranda. Nelson, découvert, revint en maugréant vers ses camarades. Il s'éleva à murmure qu'il s'éteignit au bout d'une minute ou deux, et Terence, changeant de côté, continua. Ben, ce fut la dernière fois que je vis Larry, du moins pour un moment. Les permutations, c'est comme la mort pour ce qui est de ne plus penser aux gens, sans compter que j'épousais Laïna, ce qui l'empêcha de me rappeler le temps passé. Puis nous partîmes en campagne et ça me déchirait le cœur de laisser Dinah au dépôt à Pindi. Conséquemment, une fois au feu, je me battis circonspectueusement jusqu'à ce que je m'échauffe et alors j'y allais deux fois plus dur. Vous vous rappelez ce que je vous ai raconté à la porte du quartier sur la bataille de Sylvain-Theater? Qu'est-ce qui parle de Sylvain-Theater? Fit vivement Hatteris par-dessus son épaule. Personne, petit homme, c'est une histoire que tu connais. Comme je le disais, après le combat, nous autres du vieux régiment et ceux de Tyrone, on était tous mélangés ensemble à faire le compte des morts. Et comme de juste, j'allais de-ci de-là voir si je retrouverais quelqu'un qui se souviendrait de moi. Le second homme que je rencontre, et comment je ne l'avais pas vu pendant l'affaire du diable, si je le sais, c'était Larry, toujours beau garçon, mais plus vieux, par la raison du motif. Larry, que je dis, comment va? Mais tu te trompes de nom, qu'il me dit avec son sourire de monsieur. Larry est mort depuis ces 3 années. On l'appelle amour des femmes maintenant, qui dit. Je vis par là que la vieille folie le tenait encore. Mais le soir d'un combat, ça n'est guère le moment pour se confesser. Et on s'assit tous deux à faire de reparler de l'ancien temps. On me dit que t'es marié, qu'il dit en fumant sa pipe à petite bouffée. Es-tu heureux? Oh, je le serai une fois de retour au dépôt. C'est une drôle de lune de miel. Je n'ai poussé qu'une reconnaissance. Ben, je suis marié aussi, il dit en soufflant à bouffée de plus en plus ralenti, le bout du doigt sur le fourneau de la pipe. Ben, mes souhaits de bonheur, que je dis, c'est la meilleure nouvelle que j'ai apprise depuis longtemps. Crois-tu, qui dit. Et alors, il se mit à parler de Sylvain Theater, il réclamait déjà de la besogne. J'étais content pour ma part de rester par terre à écouter chanter les couvercles des marmites. Quand il se releva, il chancela un peu et se pencha tout tordu. T'as écopé plus que ton compte, que je lui dis. Fais l'inventaire, Larry. Tu dois être blessé. Il fait demi-tour, raide comme une baguette de fusil, et se met à me damner du haut en bas et à me traiter de singe mal appris. À gueule d'Irlandais. Si j'avais été au quartier, je le dégringolais sur place. Un point s'étouffait, c'était devant l'ennemi, et après une bataille comme celle de Sylvain's Theatre, je n'avais qu'à pas à demander compte à un homme de son humeur. Il aurait bien pu m'embrasser. Dans la suite, je fus bien content d'avoir gardé mes poings dans le rang. Alors voilà notre capitaine Crook. Crook-Nabulin, qui arrive. Il venait de causer au petit gosse d'officier de Tyrone. Nous sommes tous hachés menus comme paille, qui dit. Mais les Tyrone sont salement à court de sous-offres. Allez-vous-en chez eux, Mulvaney, et faites le sergent, le caporal, le fourrier, tout ce que vous pouvez mettre la main dessus, jusqu'à ce que je vous dise halte. Je passai au Tyrone et pris le commandement. Il ne restait qu'un sergent valide, et on ne faisait pas attention à lui. Le reste, c'était moi, et il était grand temps que j'arrive. Je parlais aux uns, je ne dis rien aux autres, mais nom de Dieu, avant la nuit, les gars du Tyrone se mettaient au garde à vous, pour peu que ma pipe chante plus fort. Entre vous et moi et Bobs, je commandais la compagnie, et c'est pour ça. Que Crook m'avait mis là. Et le gosse d'officier le savait. Et moi je le savais, mais la compagnie ne le savait pas. Et c'est là, notez bien, qu'on voit à l'œuvre ce mérite qu'il s'achète pour hardie votre image, le mérite du vieux soldat qui connaît l'ouvrage de son chef et s'en tire pour lui au doigt et à l'œil. Puis le Tyrone avec le vieux régiment accolé. Furent envoyés rôder, marauder dans les montagnes contiguës et désavantageuses. C'est une idée à moi qu'un général ne sait pas la moitié du temps quoi faire des 3/4 de son commandement. C'est pourquoi il s'accroupit sur son derrière et leur donne l'ordre de courir en rond autour de lui pendant qu'il réfléchit. Et quand par l'opération de la nature, ils se font attirer dans quelque gros combat, sans l'avoir cherché, du reste, il dit: Pigé, la supériorité de mon génie, voilà où je voulais en venir. On courut donc en rond, en cercle et en travers, et tout ce qu'on y gagna, ce fut de se faire canarder la nuit sous les tentes, d'emporter des sungars vides, la broche au bout du canon, et d'attraper des coups tirés de derrière les rochers. Si bien qu'à la fin, personne n'en pouvait plus. Personne, sauf à bord des femmes. Ce métier, le chien fouetté pour lui, c'était manger et boire. Vain Dieu, il n'en avait jamais assez. Moi, qui savais bien ce que sont justement ces campagnes abrutissantes qui vous tuent aux meilleurs troupiers, et soupçonnant que si je claquais, le gosse perdrait tous ses hommes en tâchant de sortir de là, je me couchais bien tranquille. Quand j'entendais un coup de fusil, je ramassais mes longues jambes derrière un caillou et d'étaler comme un zèbre en terrain découvert. Pardieu, si j'ai conduit une fois le Taïrone en retraite, je l'ai conduit 40. Amour des femmes, lui, restait attiré, tiraillé derrière un rocher, attendant le moment où le feu chauffait plus ferme. Alors il se levait et tirait à hauteur d'homme. Il restait dehors aussi dans le camp, la nuit, avisé à toutes les ombres, car il ne prenait jamais une bouffée de sommeil. Mon officier, Dieu sauve sa petite âme, ne se rendait pas compte de la beauté de mes stratagèmes. Et quand le vieux régiment nous croisait, ce qui arrivait une fois par semaine, il se trottait vers Crook avec ses grands yeux bleus tout ronds comme des soucoupes, et portait plainte contre moi. Je les entendis une fois causer à travers la toile de la tente, et je faillis rire, ou presque. Mais il se sauve comme un lièvre, disait le gosse. C'est démoralisant pour mes hommes. Sacré petit idiot que vous faites, dit Crook en riant. Mais il vous apprend votre métier. Avez-vous déjà eu une surprise la nuit? Non, dit cet enfant qu'il regrettait fort. Avez-vous des blessés? Dit Crook. Non, répondit l'autre. Ils n'en ont pas eu l'occasion, il suit me levant d'être trop vite, qu'il dit. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus alors? Dit Crook. Terence vous dégote, c'est net et clair, qu'il dit. Il sait ce que vous ne savez pas, c'est-à-dire qu'il y a temps pour tout. Il vous fichera pas dedans, qu'il dit. Mais je donnerai un mois de solde pour savoir ce qu'il pense de vous. Cela fit taire le gosse, mais amour des femmes me cherchait des raisons pour tout ce que je faisais, et mes manœuvres en particulier. Monsieur Mulvaney, qu'il me dit un soir avec un air méprisant, vous devenez très jetty sur vos pieds. Entre gens du monde, qui dit, entre gens du monde, ça s'appelle pas d'un joli nom. Entre simples soldats, c'est différent que je fais. Retourne à ta tente, je suis sergent ici. Il y avait dans ma voix juste ce qu'il fallait pour lui faire comprendre qu'à ce jeu-là, il tenait sa vie entre ses dents. Il s'éloigna et je remarquai que cet homme qui faisait des manières partait au commandement de marche avec un mouvement brusque, comme s'il avait reçu un coup de pied par derrière. Cette même nuit, il y eut un pique-nique de Paytown dans les montagnes à côté et une fusillade sur nos tentes à réveiller les morts. Couchez-vous tous, que je dis, couchez-vous et restez tranquilles, il faut que brûler les cartouches. J'entendis les pas d'un homme sur le sol, puis un tini qui se joignait au chœur. J'étais couché au chaud, pensant à Dinah et le reste. Mais je sortis avec le clairon pour jeter un coup d'œil en cas de surprise. Le tini crachait toujours sur le front de Banvenière, et on voyait à la hauteur à côté toute piquée d'étincelles par les coups de feu à longue portée. À la lueur des étoiles, j'aperçus Amour des femmes, sans ceinturon ni casque, assis sur un rocher. Il héla deux ou trois fois, et j'entendis qu'il disait « Bien longtemps qu'il devrait avoir la hausse. Ils viseront peut-être au feu. » Puis il tira de nouveau, ce qui amena une nouvelle salve, et une flopée de ces longs lingots qu'ils mâchent entre leurs dents arrivèrent en sautant parmi les rochers comme des crapauds dans la nuit chaude. « Mais qu'est mieux ?» dit Amour des femmes. « Seigneur, comme c'est long, comme c'est long !» qu'il disait. Et là-dessus, il flambe l'allumette et la lève au-dessus de sa tête. Je pensais, mais il est fou, fou allié. Je fais un pas en avant et la première chose qui m'arrive, c'est la semelle de mon soulier qui se met à claquer comme un guidon de cavalerie et le petit juif de mes doigts de pied qui me pince tout à coup. Bon, c'était un drôle de coup de fusil bien envoyé. Un lingot, il avait raflé ni chaussettes ni peau, mais qui me laissait là, pieds nus sur les rochers. Alors là-dessus, j'empoigne Amour des femmes par la peau du cou, je le jette derrière une pierre, et à peine assis, j'entends les balles qui grêlaient sur le sacré caillou. « Va-t'en griller ailleurs tes allumettes du diable, » que je dis en le secouant, « mais j'ai pas envie de me faire tuer aussi. » T'es venu trop tard, trop tôt, qu'il dit. T'es venu trop tôt. 18 minutes, il ne m'aurait plus manqué. Sainte Mère de Dieu, qui dit. Mais pourquoi les as-tu pas laissés faire? Maintenant, c'est tout à recommencer. Et il se cache la figure dans les mains. Alors, c'est donc ça que je dis en le secouant de nouveau. C'est ça les raisons de ne pas te conformer aux ordres. Mais j'ose pas me tuer moi-même, qu'il dit en tanguant de droite et de gauche. Mes mains, elles sauraient pas. Depuis un mois, pas une balle qui est voulue de moi. Il me faut mourir à petit feu, qu'il dit. Mourir à petit feu, mais c'est l'enfer en attendant, qu'il dit. Il criait tout haut comme une femme, mais c'est l'enfer. Dieu nous garde tous, que je dis, car je voyais sa figure. Ça peut-il se raconter? S'il n'y a personne de tué dans ton histoire, il y a peut-être moyen d'arranger le mal. Là-dessus, il se mit à rire. Te rappelles-tu ce que je disais dans la chambre de Téhéran à propos des consolations de l'âme que je viendrais te demander? Mais pas oublié, qui dit. Ça m'est revenu. Je suis maintenant au bout de mon rouleau, Terence. J'ai lutté des mois et des mois, mais la boisson même ne veut plus me mordre, Terence, qui dit. Je ne peux plus être saoul. Je vis alors qu'il disait vrai en parlant d'enfer. Car lorsque la boisson n'a plus de prise, c'est que l'âme de l'homme est pourrie au fond de lui, mais moi, pour ce que je valais, que pouvais-je lui dire? Des diamants et des perles qui reprend, des diamants et des perles que j'ai jetés des deux mains. Et qu'est-ce qui me reste? Oh, qu'est-ce qui m'est resté? Et il était là, à trembler, claquer des dents contre mon épaule, et les lingots chantaient par-dessous nos têtes. Et je me demandais si mon gosse là-bas aurait assez de bon sens pour faire tenir son monde tranquille pendant toute cette fusillade. « Tant que j'ai pas pensé, » dit Amour des femmes, « j'ai pas vu, je voulais pas voir, mais je comprends maintenant tout ce que j'ai perdu. Le moment et l'endroit, les mots mêmes que j'ai dit, quand ça fut mon plaisir de m'en aller tout seul à l'enfer. Mais sans ça, même sans ça, » qu'il dit en se tendant à faire peur, « j'aurais pas été heureux. » Il y avait trop de choses derrière moi. Le moyen d'y croire à son serment. Moi qui avais violé le mien des 10 et 100 fois, rien que pour le plaisir de les voir pleurer. Et il y a les autres qui disent, oh, mais que faire, que devenir? Ils se balançaient toujours d'avant en arrière, et je crois bien qu'il pleurait comme une des femmes dont il avait parlé. Une bonne moitié de ce qu'il me dit, c'était comme des ordres de brigade pour moi. Mais d'après le reste, je devinais quelque chose de son mal. C'était le jugement de Dieu qui la grippait au talon, comme j'en avais averti dans la caserne du Tyrone. Les lingots chantaient de plus belle autour de notre rocher, et je dis pour le distraire, « Chaque mal a son heure, que je dis. Ils vont tâcher de prendre le camp d'assaut d'ici une minute. » Et je n'avais pas parlé, voilà un piton qui s'aboule à plat ventre, son couteau entre les dents à pas 20 mètres de nous. Amour des femmes saute sur ses pieds en gueulant. L'homme le voit et court dessus. Il avait laissé son fusil sous le rocher, le couteau en l'air. Amour des femmes ne bouge pas le cheveu. Mais par le Dieu vivant, comme je l'ai vu, vrai comme je l'ai vu, voilà une pierre qui tourne sous le pied du paysan, s'étend tout son long, pendant que le couteau s'en va dinguer à travers les rochers. « Je te l'ai dit, je suis Caïn, dit Amour des femmes. À quoi bon le tuer? C'est un honnête homme, lui, par comparaison. Je n'étais pas en train de discuter sur la mort des paysans. Aussi, je mets la crosse du fusil d'amour des femmes dans la figure de l'homme et... Vite au camp, que je dis, possible que ce soit l'assaut qui commence. Non, il n'y eut pas d'assaut, en fin de compte, malgré qu'on en était resté l'arme à l'épaule à les attendre, histoire de voir venir. Le païtan devait s'être abordé seul par malice. Et au bout d'un moment, Amour des femmes retourna à sa tente avec ce drôle de tangage en demi-cercle dans la marche où je ne pouvais rien comprendre. Pauvre bougre, je le plaignais d'autant plus qu'il me fit penser, le reste de la nuit, au jour où j'avais été nommé caporal, où je ne faisais pas fonction de lieutenant encore, et un tas d'idées qui ne me valaient rien. Vous comprenez, après cette nuit-là, on en vint à causer pas mal ensemble, et petit à petit, ce que je soupçonnais se tira au clair. C'était tous ces mauvais coups, toutes ces canailleries qui lui retombaient dessus, lourds et durs comme la boisson vous terrasse quand on n'a pas dessoulé de 8 jours. Tout ce qu'il avait fait, et lui seul aurait pu en faire le compte, tout cela lui revenait et son âme ne trouvait plus un instant de repos. C'était la folie, la peur sans cause apparente et pourtant, mais qu'est-ce que je raconte là? Il aurait accepté la folie et dit merci encore. Au-delà des remords de cet homme, cela passait déjà la résistance humaine et c'était affreux à voir. Il y avait autre chose de pire que tous les remords. Sur les douzaines et douzaines de femmes qu'il revoyait dans sa tête, et de les voir passer toutes, cela le rendait fou. Il y en avait une, voyez-vous, et ce n'était pas la sienne, dont l'idée lui fouillait comme un coup de couteau dans le vif des moelles. C'était cette fois-là qu'il disait, cette fois-là qu'il avait jeté diamants et perles sans compter. Et alors il recommençait comme un bail aveugle dans un moulin à huile qui tourne toujours dans le même rond à se dire. Lui qui avait passé toute chance de connaître jamais le bonheur de ce côté-ci de l'enfer, combien il aurait été heureux avec elle. Plus il y pensait, plus il se ressassait qu'il avait perdu la chance d'un bonheur épatant. Puis il reprenait toute son histoire à rebours, pour conclure en pleurant que rien d'une façon ou d'une autre n'aurait pu le rendre heureux jamais. Des fois, oui, des fois et bien d'autres, sous la tente, à l'exercice, au feu aussi, j'ai vu cet homme-là fermer les yeux et rentrer le cou, comme on plongerait en voyant briller une baïonnette à hauteur d'œil. C'était alors qu'il me disait... C'était alors que la pensée de tout ce qu'il avait perdu se dressait devant lui et le brisait comme un feu rouge. Ce qu'il avait fait aux autres, il le regrettait, quoiqu'au fond, ça lui était égal. Mais cette femme dont je vous ai parlé, Crénom de bleu, elle lui fit à elle seule payer deux fois pour toutes les autres. J'aurais jamais cru qu'un homme pouvait endurer pareil tourment sans que le cœur lui éclate entre les côtes. Et j'ai vu pourtant. Thérence fit tourner lentement le tuyau de sa pipe entre ses dents. Quelques seuls moments dans ma vie. Eh bien, tout ce que j'ai jamais souffert ne vaut pas la peine d'en parler à côté de lui. Et que pouvais-je faire? Des prières pour le deuil qu'il se faisait. Autant lui offrir des petits pois en cosse. Un beau jour vint la fin de notre balade dans la montagne, et grâce à moi, sauf excuse, il n'y eut au bilan ni gloire ni malheur. La campagne se tirait et on rassemblait tous les régiments avant de les renvoyer chez eux. L'amour des femmes se mangeait les sangs de n'avoir rien à faire, rien qu'à penser tout le temps. J'ai entendu cet homme-là causer à sa plaque de ceinturon, à ses montures de fusil, tout en les astiquant, rien que pour s'empêcher de penser. Et chaque fois qu'il se levait après être resté assis, ou qu'il se remettait en marche, il partait avec cette ruade en manière d'embardée dont je vous ai parlé. Ses jambes qui semblaient fichequantes de tous les côtés à la fois. Il ne voulait jamais voir le major, quoi que je lui dise. Il me jurait auprès du haut en bas des remerciements de mes conseils, mais je savais qu'il n'était pas plus responsable de ce qu'il disait que le gosse du commandement de sa compagnie, et je laissais marcher sa langue, histoire de se soulager. Un jour, c'était au retour, je me promenais par le camp avec lui quand il s'arrête et frappe le sol du pied trois ou quatre fois d'un air de doute. Je dis, qu'est-ce que c'est? C'est-il de la terre qui dit? Me demandait si sa terre s'en allait, quand voilà le major qui s'amène. Il en est d'un atomisé à bœuf mort. Amour des femmes veut partir au pas allongé et m'envoie un coup de pied dans le genou pendant que ses jambes se préparent au mouvement de en avant. Et là, dit le major, et la figure d'amour des femmes, qui était toute grillée de petites rides, devint rouge brique. Garde à vous, dit le major. Amour des femmes joignit les talons. Maintenant, fermez les yeux, dit le major. Non, faut pas vous tenir à votre camarade. C'est fini, dit Amour des femmes en essayant de sourire. Je tomberai, docteur, et vous le savez bien. Tomber, que je dis, tomber au garde à vous avec les yeux fermés, mais qu'est-ce que tu veux dire? Oh, le major le sait, qui dit. J'ai tenu bon tant que j'ai pu, mais nom de Dieu, je suis bien content que ce soit fini. L'ennui, c'est que je serai long à mourir, qui dit, très long à mourir. Je voyais à l'air du major qu'il avait pitié du pauvre diable et de tout son cœur. Il lui ordonna l'hôpital. Nous revînmes ensemble et j'en perdais la parole d'étonnement. Amour des femmes s'écroulait, s'émiettait à chaque pas. Il marchait une main sur mon épaule en pivotant sur le côté, tandis que sa jambe droite ramait comme un chameau boiteux. Et moi, qui ne me doutais pas plus que les mots de ce qu'il savait, c'était tout à fait comme si un mot du docteur avait tout fait, comme si amour des femmes n'avait attendu que ce mot pour se laisser aller tout à trac. À l'hôpital, il dit au major quelque chose que je ne pus attraper. Crématin, que dit le major, qu'est-ce que c'est que ces manières de donner des noms à vos maladies? C'est contre tous les règlements. Oh, je serai plus soldat longtemps, dit Amour des femmes de sa voix de monsieur. Et le docteur fit un saut. Voilà un camp pour vous, docteur Lawndes, qu'il dit. C'est la première fois que j'ai entendu appeler un major par son nom. Adieu, Terence, dit Amour des femmes. Je suis un homme mort et sans le plaisir de mourir. Tu viendras me faire visite quelquefois pour la plus grande paix de mon âme. Or, j'avais eu dans l'idée de demander à Crook de me reprendre au vieux régiment. On ne se battait plus et j'en avais plein le dos des gars du Tyrone et de leurs manières. Mais je changeais d'avis, je restais, afin d'aller voir Amour des femmes à l'hôpital. Comme je vous l'ai dit, monsieur, l'homme me claquait dans la main en petits morceaux. Depuis combien de temps il se maintenait, se forçait à marcher droit, j'en sais rien. Mais à l'hôpital, moins de 2 jours plus tard, c'est à peine si je pouvais le reconnaître. Je lui donnais une poignée de main, il serra la mienne assez fort, mais ses mains à lui se promenaient partout à la fois. Il ne pouvait pas boutonner sa tunique. Je mettrai longtemps, longtemps encore à mourir, qui dit. Le prix du péché ressemble à l'intérêt dans les caisses d'épargne régimentaires. C'est sûr, mais il faut un sacré temps avant de toucher. Le major me glisse un jour en douceur. Est-ce que Tine là-bas a quelque chose en tête? Qui dit, on croirait qu'il se ronge. Oh, mais comment pourrais-je savoir, monsieur le major, que je dis plus innocent qu'un ange? On l'appelle amour des femmes dans le Tyrone, n'est-ce pas? Qui dit. Ma question était stupide. Restez avec lui autant que vous pourrez. Il se tient encore à votre force. Mais qu'est-ce qu'il a, major, que je dis? On appelle cela attaque xylocomotive, qu'il dit. Parce que, qu'il dit, cela nous attaque comme une locomotive, si vous savez ce que cela veut dire. Cela vient, qu'il dit en me regardant, cela vient d'être appelé amour des femmes. Mais c'est pour rire, major, que je dis. Pour rire, qu'il dit. Si jamais vous vous sentez dans votre brodequin une semelle de feutre au lieu du poil de vache du gouvernement, venez me trouver, qu'il dit. Et je vous ferai voir si c'est pour rire. Mais vous ne le croirez pas, monsieur, mais ça, et puis de voir amour des femmes pincer tout à coup sans prévenir. Tout ça me ficha une frousse si diabolique de l'ataxie que pendant plus d'une semaine je m'en allais me grognant les doigts pieds aux pierres et aux souches pour le plaisir de sentir que ça faisait mal. Et amour des femmes demeurait là, couché sur son lit. Il y avait beau jour qu'il aurait pu descendre avec un convoi de blessés, mais il demanda à rester avec moi. Et ce qu'il avait dans l'esprit lui pesait dessus de tout son poids, nuit et jour, jour et nuit, à chaque heure. Et il se ratatinait comme une portion de viande de bœuf au soleil, et ses yeux ressemblaient à des yeux de hibou, et ses mains n'obéissaient plus. On ramenait les régiments un par un, la campagne étant finie, mais selon l'habitude, tout marchait comme si jamais un régiment n'avait été déplacé de mémoire d'homme. Pourquoi ça? Dites-moi, monsieur. On se bat, tout compte fait, ici ou là, 9 mois sur 12 dans l'année. C'est ainsi depuis des ans et des ans, et on pourrait croire que depuis le temps, ils auraient attrapé le truc de pourvoir à la troupe. Mais non, on dirait chaque fois un pensionnat bousculé par un gros taureau rouge en allant à vêpres. Et sainte mère de Dieu! Que j'ai à l'intendance, et les chemins de fer et les chouettes de Cambrai, mais qu'allons-nous devenir? Lors nous arrivâmes, descendant Tyrone au vieux régiment et une demi-douzaine d'autres. Puis c'était tout, les ordres se muselaient là. Nous descendîmes par une grâce spéciale de Dieu. Nous descendîmes, c'était par le Quibert en tout cas. Il y avait des malades avec nous. Et je me doute que plus d'un mourut à force d'être secoué dans les dough halls. Mais je ne demandais pas qu'à mourir comme ça, pourvu qu'ils arrivent plutôt vivants à paix sommaire. Marcher à côté d'amour des femmes, on allait au pas de route, et amour des femmes n'était guère en train de continuer. Oh, si seulement j'étais mort là-haut, qui disait à travers les rideaux du dos-lit. Puis je tournais les yeux et rentrais le cou à cause des idées qu'il bourlait. Dinah était au dépôt, hein, Pindy, mais je ne m'emballais pas, car je savais bien que c'est justement au bout de la queue des choses que la chance peut tourner. Par exemple, j'avais vu un conducteur de batterie brasser au trot en chantant Home, sweet home, à plein gosier. Et sans faire attention à sa gauche, j'avais vu cet homme tomber sous le canon au milieu d'un mot et sortir derrière le caisson comme une grenouille sur un pavé. Non, non, ce n'est pas moi qui me presserais. Pourtant, Dieu sait, mon cœur ne pensait qu'à Pindy. Amour des femmes, oui, ce que j'avais en tête, et va, Terra, je sais ce qui t'attend. Je ne dirai pas que je dis, ça peut tenir encore au bout du temps. Vous connaissez le coude de la passe de Van Jumrood et la route de 9 miles en terrain plat qui mène à Peshawar. Tout Peshawar se tenait là, jour et nuit, le long de cette route à attendre des amis, hommes, femmes, enfants et musique. Quelques troupes campèrent autour de Jumrood et d'autres continuèrent sur Peshawar pour regagner leur cantonnement. Voilà que nous débouchons de la passe le matin, la première heure après avoir veillé toute la nuit, et nous entrons en pleine salade au milieu de la mêlée. Sainte Mère de Dieu, oublie jamais ce retour. Le jour n'était pas encore tout à fait levé, et la première chose que nous entendons, c'est Forth is my delight of a shiny night, par une musique qui nous prenait pour le deuxième bataillon du Lincolnshire. Là-dessus, on est forcé de gueuler pour se faire reconnaître et quelqu'un lance The Reeling of the Green. Oh, cela me mit des fourmis tout le long du dos, rapport qu'on n'avait pas déjeuné. Et puis, blanc dans notre arrière-garde, vient s'épater le restant des Jock Elliots avec 4 cornemuses et pas la moitié d'un kilt à eux quatre, jouant comme si leur vie en dépendait et tortillant du rabble comme des lapins, plus un régiment indigène hurlant au meurtre, au feu. Vous n'avez jamais rien entendu de pareil. Il y avait là des hommes qui pleuraient comme des femmes, et ma foi, je ne les en blâme pas. Mais là où je n'y tins plus, ce fut de voir la musique des lanciers luisants et fourbis comme des anges, le cheval, le timbalier en tête et les timbales d'argent, et tout, attendant leurs hommes qui venaient derrière nous. Ils commencèrent à jouer le galop de cavalerie, et nom de Dieu, ces pauvres régiments qui ne comptaient pas un sabot valide par escadron, y répondent, et les hommes avec qui titubaient en selle. Nous tâchons de leur envoyer un hurrah au passage, mais une sortie d'une espèce de grosse toux, moitié grognement, de sorte qu'il devait y en avoir beaucoup qui se sentaient comme moi. Oh, mais j'oublie, les fly-by-night attendaient au second bataillon, et lorsqu'il parut, marchait en tête, la selle vide, le cheval du colonel. Oh, les hommes l'adoraient, on peut le dire. Il était mort à Ali Mujit en revenant. Ils attendirent jusqu'à ce que le reste du bataillon fût en vue. Et alors, oh, contre toute espèce d'ordre, car je fourde un peu qu'il avait besoin d'un air pareil ce jour-là, ils rentrèrent à Peshawar au pas d'enterrement, en jouant une marche funèbre à décrocher les entrailles à tous ceux qui entendaient. Ils passèrent juste devant notre front et, vous connaissez leurs uniformes, noirs comme des ramoneurs, à leurs pas lents de mort qui reviennent, pendant que les autres musiques les damnaient jusqu'à la gauche. Ils s'en fichaient pas mal, ils avaient le corps avec eux, et ils l'auraient même de ma main à travers un couronnement. Nous avions l'ordre d'entrer dans Peshawar et en allongeant, en dépassant les fly-by-night, s'enchanter pour laisser cet air-là derrière. Et c'est ainsi qu'on prit la route des autres corps. Les oreilles me tintaient encore lorsque je sentis dans mes os que Daina venait. J'entendis un cri et alors je vis, dévalant sur la route, un tombeau ouvert, dans de l'écume et de la poussière, un cheval et un tatou et des femmes dessus. Oh, je savais. L'une, c'était la femme du colonel du Tyrone, la dame du vieux briqueur. Ses cheveux gris au vent et sa grosse boule de carcasse qui roulait en selle. Et l'autre, c'est Daina, qui aurait dû être à Pindi. La dame du colonel charge la tête de notre colonne comme un mur de pierre et fiche presque Baker à bas du cheval, en lissant les bras autour du cou et bafouillant « Mon gars, mon gars !» Daina tourne à gauche et descend le long de notre flanc. Et je lâche un hurlement qui avait souffert dans ma gorge depuis des mois et... Daina vint. Pourrais-je oublier ça jamais tant que je vivrai? Elle était venue de Pindi avec un sauf-conduit, et la dame du colonel lui avait prêté la tatou. Elles avaient passé la nuit à s'embrasser, à pleurer l'une contre l'autre. Elle avait mis pied à terre et elle marchait, la main dans sa sienne, me faisant 40 questions pour une et me suppliant de jurer sur la Vierge que je n'avais pas de balle dissimulée dans mon individu quelque part. On ne sait jamais. Je me souvins alors d'amour des femmes. Il nous guettait et sa figure était comme celle d'un diable qui a cuit trop longtemps. Je n'avais pas envie que Daina le voie. Car lorsqu'une femme déborde comme ça de contentement, la plus petite chose qui arrive dans la vie peut la toucher et du mal s'en suivre. C'est pourquoi je tirai le rideau et un bruit des femmes retomba en arrière en gémissant. Quand on prit le pas pour rentrer à Peshawar, Daina alla m'attendre au quartier et moi, plus fier que l'empereur pour le moment, je continuais ma route afin de conduire amour des femmes à l'hôpital. C'était le moins que je pouvais faire, et pour lui épargner la poussière et l'étouffement, je fis prendre au porteur une route bien en dehors de celle des troupes. Nous allions ainsi, moi causant à travers les rideaux. Et tout à coup, j'entends qui dit « Laisse-moi voir, pour l'amour de Dieu, laisse-moi voir !» J'avais été si occupé à la garde de la poussière et à penser à Daina que j'avais pas l'œil sur ce qui se passait autour de moi. Une femme à cheval nous suivait un peu en arrière. Et comme j'appris en recausant plus tard avec Daina, cette même femme devait avoir poussé très loin sur la route vers Jumrud. Daina me dit qu'elle rôdait depuis la veille comme un vautour sur le flanc gauche des colonnes. Je fis faire halte au douli pour regarder les rideaux, et elle nous devança au pas, tandis que les yeux d'amour des femmes la suivaient, comme s'ils avaient voulu la haler bas de sa selle. « Suivez !» qui dit. « C'est tout. » Mais jamais, ni avant ni depuis, je n'ai entendu un homme parler avec cette voix-là. Et à ce mot-là seul et le regard qu'il avait, je compris que c'était la diamant et perle dont il m'avait parlé dans son tourment. Nous suivîmes jusqu'à ce qu'elle tourne dans l'enclos d'une petite maison située près d'Edward's Gate. Il y avait deux filles sous la véranda qui rentrèrent en courant en nous voyant venir. En un clin d'œil, j'avais vu quelle sorte de maison c'était. À la hauteur de la véranda, amour des femmes dit en reprenant haleine « Arrêtez ici !» et alors, avec un rang qui dut lui arracher le cœur du ventre, il se jette à bas du douli et Vrai, comme je vous le dis, il reste debout sur ses pieds, tandis que la sueur lui coulait en ruisseau du visage. Oh, si Maki entrait ici en ce moment, je serais moins épaté qu'en voyant ça. Si Maki entrait ici en ce moment, je serais moins épaté qu'en voyant ça. D'où il avait tiré la force de le faire, Dieu sait, ou le diable. Mais c'était un homme mort qui marchait au soleil avec la figure d'un homme mort et le souffle d'un homme mort, tenu droit par une force invisible avec des bras et des jambes de cadavre qui allaient au commandement. La femme se tenait debout sous la véranda. Ça avait été une beauté, elle aussi, malgré ses yeux qui se renfonçaient dans sa tête. Et elle regardait amour des femmes d'un œil terrible. Eh bien, qu'elle dit en renvoyant d'un coup de pied la traîne de sa jupe, eh bien, qu'elle dit, qu'est-ce que vous faites donc ici, l'homme marié? Amour des femmes ne répondit rien, mais un peu d'écume lui vint aux lèvres, qu'il essuya de la main. Et regardez, elle et la peinture qu'elle avait sur le visage. Il la regardait, la regardait, la regardait. Et pourtant, qu'elle dit avec un rire, avez-vous entendu rire la femme des reines quand Maki est mort? Non, tant mieux pour vous. Et pourtant, qu'elle dit, qui en aurait droit mieux que vous? Qu'elle dit, c'est vous qui m'avez appris la route, c'est vous qui m'avez montré le chemin. Oui, vous pouvez regarder, car c'est votre ouvrage à vous qui avez dit, vous en souvenez-vous, qu'une femme qui trompait un homme pourrait en tromper deux. J'ai été cette femme, qu'elle dit, cette femme et un peu plus. Vous répétiez souvent que j'apprenais vite et lisse. Regardez bien, car c'est moi qu'autrefois vous appeliez votre femme sous le regard de Dieu. Et elle rit. Amour des femmes se tenait immobile au soleil sans répondre. Puis il gémit et toussa une fois. Oh, j'ai cru que c'était le râle de la mort, mais il ne détacha pas une minute son regard du visage de la femme, pas la durée d'un clin d'œil. Et que faites-vous ici? Qu'elle dit. Puis, mot à mot, hein. Vous qui m'avez volé ma joie, mon homme. Voilà 5 ans passés, qui avait brisé mon repos, tué mon corps et damné mon âme pour le plaisir de voir comment ça se faisait. Vos aventures plus tard ont-elles jeté dans votre chemin une femme qui vous ait donné plus que moi? Ne serais-je pas morte pour vous et avec vous, Hélice? Vous savez cela au moins. Mais si jamais homme qui meurt a vu vrai dans sa vie, vous savez cela. Et amour des femmes redressa la tête et dit, je le savais. Ce fut tout. Pendant qu'elle parlait, la force le soutenait aussi droit que la parade en plein soleil, pendant que la sueur dégouttait sous son casque. Mais ça devenait de plus en plus pénible pour lui de parler, et je voyais remuer sa bouche tordue. Mais que faites-vous ici? Qu'elle dit. Oh, sa voix monta, c'était comme si les cloches sonnaient d'avance. Il y a un temps où les mots, vous venez vite, vous, dont la voix m'a traîné à l'enfer. Êtes-vous muet maintenant? Et amour des femmes, retrouvant sa langue, dit simplement, comme un petit enfant. Puis-je entrer? Qu'il dit. Mais la maison est ouverte jour et nuit, qu'elle dit avec un rire. Et amour des femmes baissa la tête et leva la main comme s'il parait un coup. Oh, la force était sur lui toujours, elle continua à le tenir debout, car oh, sur mon âme, si je dois la sauver jamais, il monta les marches de la véranda, il monta, oui, ce cadavre vivant à l'hôpital depuis un mois. Et maintenant, dit-elle en le regardant, et les rondes peintures rouges se détachaient sur le blanc de son visage comme une mouche sur une cible. Il leva les yeux lentement, très lentement, et il la regarda longtemps, très longtemps. Puis il parvint à dire entre ses dents, d'un effort, qu'il secoua tout entier. Je meurs, Égypte, je meurs, qu'il dit. Oui, ce sont ses propres paroles, car je me souviens du nom qu'il lui donna. Il prenait la couleur de la mort, mais ses yeux ne bougeaient pas. Ils étaient rivés, mais rivés sur elle. Sans parler ni prévenir, elle ouvrit tout grand les bras et dit « Ici ?» Oh, quelle voix d'or de miracle c'était !« Meurs ici !» qu'elle dit. Et Amour des femmes tomba la tête en avant et elle le soutint, car c'était une grande belle femme. Je n'eus pas le temps de détourner la tête, car à cette minute, j'entendais l'âme de mon camarade qu'il quittait, son âme arrachée dans le râle de la mort. La femme m'étendit sur une chaise longue et me dit « Monsieur le soldat, qu'elle dit, voulez-vous pas attendre et causer avec une de ces demoiselles? Le soleil lui a fait mal. » Je savais bien que de soleil il n'en verrait jamais, mais je ne pouvais pas parler, de sorte que je m'en allais avec le doux livide à la recherche du docteur. Il avait fait que déjeuner et redéjeuner depuis qu'on était rentré, et il était plein comme une tique. « Martin, vous êtes sourd, il y a de bonne heure !» qui dit, quand je lui racontais la chose. « Pour avoir vu cet homme-là marcher, mais à part un souffle de vie, c'était un cadavre avant de quitter Youmroud. J'ai grande envie, qui dit, de vous fiche dedans. » « Il n'y a pas de mal de boisson qui court en ce moment, monsieur le major, que je dis, sérieux comme un œuf dur. Ça se peut, comme vous dites, mais si vous voulez bien voir le cadavre dans la maison. Mais c'est dégoûtant, qu'il dit, de me demander de mettre les pieds dans un endroit pareil. Est-ce une jolie femme, qu'il dit. Et là-dessus, il se trotte avec moi au pas gymnastique. Je vis tout de suite qu'ils étaient encore tous deux sous la véranda où je les avais laissés, et je compris, à la manière dont pendait sa tête à elle et au bruit des corbeaux, ce qui était arrivé. C'est la première et dernière fois que j'ai vu une femme se servir de pistolet. Elle craignait le plomb en général, mais diamants et perles, elle n'avait pas peur, oh non pas. Le major toucha la longue chevelure noire, elle était toute tombée sur la tunique d'amour des femmes, et ça le dégrisa pour de bon. Il resta longtemps à regarder, les mains dans ses poches, et à la fin il me dit « Ben voici une double mort pour cause naturelle, tout ce qu'il y a de plus naturel, et en l'état présent des choses, le régiment sera reconnaissant d'avoir une fosse de moins à creuser. Ici Vasti, qui dit, ici Vasti, fusillé Boulevanet. Ces deux-là sont enterrés ensemble dans le cimetière civil à mes frais. Et puisse le bon Dieu, qui dit, en faire autant pour moi qu'en viendra mon heure. Allez, retourne auprès de ta femme, qui dit, va prendre du bon temps, m'occuperai de tout ça. » Je le laissais, qui réfléchissait encore. Eux, ils furent enterrés ensemble au cimetière civil, avec service et pasteur. Il y avait alors trop d'enterrements pour qu'on fît des questions. Et le docteur, oh, il s'est sauvé avec la femme du major Van Dyce, la même année. S'occupa de tout, en effet. Les temps où les raisons d'amour des femmes et de diamants et perles n'auraient jamais rien su. Il n'en saurait rien jamais, mais c'est leur histoire que je vous ai racontée, comme elle me revenait, par pièces et par morceaux. Or, valant ce que je vaux et sachant ce que je sais, voilà pourquoi je dis, dans cette affaire d'aujourd'hui, que maquis, tout mort et damné qu'il est, c'est encore le plus heureux. Il y a des fois, messieurs, où mieux vaut pour l'homme de mourir que de vivre, et par conséquent, pour la femme 40 millions de fois mieux. Houp, dit Athoris. Allez, il est temps de partir. Les témoins et la garde s'alignèrent dans l'épaisse poussière blanche du crépuscule altéré, firent par le flanc et s'en allèrent au pas de route en sifflant. Le long du chemin, jusqu'au tournant de l'église, j'entendis Arthuris, le crime noir du livre parjuré tout frais encore sur les lèvres, qui scandait comme un fifre, avec un beau sentiment de l'à-propos des choses, le pas redoutable bien connu. Ah, ne méprisez pas les avis des plus sages, apprenez la sagesse des aînés, n'étendez pas la main plus loin que ne pouvez. Voilà ce qu'au soldat dit son ami, soldat, soldat. Oh, voilà ce qu'au soldat dit son ami.